Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug Nowtech numéro 140, c'est l'édition spéciale du vendredi. On se retrouve tous sur la chaîne principale. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, c'est l'édition spéciale. On est effectivement sur la chaîne principale. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ce live, c'est une revue de presse de la technologie. On se retrouve du lundi au vendredi, mais du lundi au jeudi, ça se passe sur la chaîne secondaire qui s'appelle Nowtech Live, à laquelle je vous invite à vous abonner si vous voulez avoir des news tous les matins. Mais le vendredi, c'est la grand-messe. On se retrouve tous sur la chaîne principale pour faire ce live. Et comme d'habitude, le vendredi aussi, les news, le fameux Kawa, eh ben, est un petit peu spécial parce que je vous fais d'abord un récap des news de la semaine et puis après, on parle des news du vendredi. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Et effectivement, ça a été une semaine d'une manière surprenante, on va dire assez riche au niveau tech. C'est vrai qu'en ce moment, on va dire que l'industrie fonctionne un petit peu au ralenti, mais pas tant que ça. Des smartphones sortent. Vous avez vu peut-être la vidéo du OnePlus qui était sur la chaîne. Mais effectivement, une des grosses annonces également de cette semaine, c'est Apple qui a dévoilé son iPhone SE 2020. Ils ne l'ont pas appelé le SE 2, c'est le 2020. On va en reparler, ça va même être l'objet de la tartine ce matin. On va parler, vous allez pouvoir vous exprimer sur l'iPhone SE, à quel point vous trouvez que c'est un scandale ou à quel point vous l'aimez. Mais voilà, c'est un nouvel iPhone SE 2 qui va venir remplacer dans la gamme Apple l'iPhone 8 qui ne sera plus vendu. Il se positionne comme un modèle entrée de gamme. On le trouvera effectivement à partir de 489 € en Europe. Je vous rappelle, avant que j'entende des gens qui me disent « Oui, mais il est à 399 $ aux États-Unis, pourquoi nous c'est aussi cher ?» C'est des prix sans TVA, vous rajoutez 20% de TVA, la taxe sur le droit numérique et effectivement quelques frais pour que ça vienne en Europe et on s'y retrouve au niveau prix. 489 €, c'est un prix quand même très intéressant. Une surprise, non, ça n'a pas été une surprise qu'Apple annonce ce SE. On se demandait s'il allait être retardé, effectivement, par la crise du coronavirus. Il n'en est pas... Ce n'est pas le cas. 489 €, c'est la version 64 Go. Il existera en 128 et en 256, si je ne me trompe pas. C'est, pour le résumer schématiquement, effectivement, un... Alors, ceux qui disent que c'est un iPhone 8, c'est faux. Je dirais que c'est un iPhone 8 avec un peu d'iPhone XR dedans et le processeur de l'iPhone 11, puisqu'on retrouve la puce A13, la puce voire la puce la plus puissante aujourd'hui sur un smartphone. Il est équipé quand même de certaines technologies, genre le Wi-Fi 6, qui sont les dernières à la mode. Il n'est pas 5G. C'est peut-être la chose que je regrette le plus, mais bon, c'est comme ça. Ça aurait été le premier iPhone avec la 5G, ça aurait été bizarre. Les précommandes, c'est aujourd'hui à 14h. Il faudra être rapide pour ne pas manquer les premières livraisons, mais soyez pas trop rapide quand même, parce que sinon, je pourrais pas en tester un. Voilà, je dis ça comme ça. J'essaye. Donc, il arrivera dans le courant de la semaine prochaine. Oui, si on arrive à mettre la main sur un exemplaire, oui, nous le testerons sur la chaîne avant qu'on me pose la question. On en reparlera parce que j'ai mon avis sur l'iPhone SE. Je commencerai à vous le livrer dans le live de ce matin et puis je continuerai quand je l'aurai vraiment en main et qu'on pourra le tester. Dans les news de la semaine qu'il fallait pas rater aussi, c'est Zoom qui continue un petit peu sa descente aux enfers. C'est aujourd'hui 500 000 comptes Zoom qui se retrouvent sur le dark web. Ils ont été vendus à un prix relativement bas hein, sur le dark web. 500 000 comptes piratés Zoom. Aujourd'hui, à quoi ça sert d'acheter ces comptes Zoom? Déjà faire des blagues, parce que ça permet à ceux qui achètent cette liste-là d'intervenir dans des réunions, montrer leur cul et repartir. C'est très très drôle, Dieu sait qu'on s'amuse. Mais ça montre bien, effectivement, on en a parlé plein de fois de ces deux dernières semaines, des problèmes de vulnérabilité de Zoom qui a vu une croissance absolument dingue de son nombre d'utilisateurs, qui avait absolument pas anticipé ça, qui n'avait pas les méthodes de protection qui sont à la hauteur d'une véritable utilisation professionnelle d'un outil comme ça. Finalement, ça fait plutôt un bon buzz pour Microsoft Teams et autres qui offrent plus de protection. En tout cas, Zoom essaye de redresser la barre en comblant les trous, mais reste que 500 000 comptes étaient dans la nature et sont vendus actuellement sur le dark web. Amazon, cette semaine, la justice française, le tribunal de Nanterre, a interdit à Amazon de livrer des smartphones, des PC, de livrer tout ce qui n'était pas considéré comme essentiel. Je vous en parle parce que c'était une news dans la semaine et il y a des rebonds aujourd'hui. Donc, on en reparlera justement de cette interdiction, de la réaction d'Amazon, etc. Ce qu'il fallait pas rater également cette semaine, c'est toujours chez Apple. Là, c'est de la supputation, mais a priori, Apple sera en train de bosser sur plein de choses. Hein. Il y a aussi son casque audio. Mais là, ça serait un HomePod plus petit, moins cher. C'est vrai qu'ils ont fait un gros flop avec le HomePod première génération. Est-ce qu'ils arriveront à faire quelque chose de plus intéressant, de plus séduisant? C'est pas forcément en le rendant plus petit que ça va le rendre plus séduisant, mais moins cher, c'est évident. C'est quand même très très cher le HomePod. Une chose intéressante, c'est que l'OS choisi maintenant pour faire tourner le HomePod, c'est TV. C'est TVOS. Donc ça veut peut-être dire certaines choses sur l'intégration des HomePod dans des systèmes Apple TV. Moi, je dis même ce qui serait malin de la part d'Apple, c'est de mettre une Apple TV dans un HomePod. Comme ça, on achèterait deux produits en un. Moi, ça me plairait assez comme évolution. Mais là, je rêve peut-être. Et donc voilà, ça serait ce sur quoi Apple serait en train de bosser en ce moment. La grosse news et le truc qu'on est tous tombés sur le cul cette semaine, c'est que Google et Apple vont travailler ensemble. C'est fini les Android, les iPhones. En fait, non, je déconne. Google et Apple s'associent en fait pour faciliter la création d'applications de suivi. Vous savez que c'est le dossier brûlant en ce moment. Tous les pays ont besoin ou créer des applications. Genre en France, ça va être Stop Covid Stop ou Stop Covid, qui sont pas des applications de tracking, ça c'est le fantasme populaire, qui sont plus des applications de tatouage en fait, tatouage par Bluetooth. Et là où Google et Apple vont s'associer, c'est pour rendre justement ce tatouage possible et compatible entre les smartphones Android et Apple pour qu'une application puisse facilement partir sur cette brique logicielle et pouvoir faire comme ça du repérage si on a croisé effectivement le smartphone de quelqu'un qui s'est déclaré. Je vous rappelle que cette application sera déclarative, mais là aussi on va en reparler dans les articles du jour. Eh bien ça fonctionnera. C'est plutôt une bonne nouvelle que Google et Apple s'associent. Ça va faciliter le boulot des différents gouvernements. On continue dans les news de la semaine et c'est la dernière grosse news de la semaine, en tout cas pour moi, c'est le plafond du paiement sans contact qui va a priori être relevé à 50 €. Aujourd'hui c'est 30 € sans contact avec vos cartes bleues. 50 €, bon, moi j'ai toujours tendance à vous dire méfiez-vous un petit peu du sans contact parce qu'on sait que c'est pas très très bien protégé. Bon, après il faut quand même qu'il y ait un mec qui vous suive à quelques mètres avec un petit ordinateur dans la poche pour pouvoir vous piquer 30 et maintenant 50 euros. Mais c'est vrai que c'est pas super super secure. Préférez des paiements avec votre smartphone sans contact ou avec une watch ou ce genre de choses. En tout cas, je pense que l'avenir est plus là. Ou alors une meilleure protection, effectivement, des cartes bleues. Mais c'est plutôt une bonne chose, les 50 euros sans contact. C'est vrai que cette crise du coronavirus nous a montré à quel point ça pouvait être utile quand même qu'on n'ait plus trop à toucher de l'argent liquide. Moi, je sais que le peu de liquide que j'avais, c'est entreposé dans un coin chez moi. On le reprendra au bout d'un moment, mais de toute façon, c'était déjà le cas, et je pense que vous aussi, pour la plupart. Moi, personnellement, je paye de moins en moins de choses en liquide. J'aime bien le liquide, parce que le liquide, c'est la forme ultime de la liberté capitalistique moderne, puisque c'est payé en liquide, c'est garanti sans traçage. Bon, à part si vous avez des billets numérotés qui ont pris de la peinture quand vous les avez cambriolés, mais ça, c'est un autre problème. Mais en même temps, il y a un petit côté archaïque au paiement en liquide, puis se trimballer avec des sacs de pièces qui ont été touchés par tout le monde. Quand même un peu dégueulasse. Hein, voilà. Bye bye le liquide et l'anonymat qui va avec. Non, non, mais je reconnais les vertus du liquide. Hein. Je reconnais les vertus du liquide. Mais c'est vrai que après, c'est quand même un moyen de paiement un petit peu ancien, on va dire. Je parle d'expérience, Jérôme. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des billets avec de la couleur violette, rouge. Enfin, ça dépend, les bombes de peinture qui ont explosé quand j'ai cambriolé des... Je raconte n'importe quoi. Je vous propose qu'on passe aux news du vendredi, puisqu'on en a quand même pas mal. Je le reprécise pour ceux qui arrivent. L'iPhone SE, on va en parler. C'est le sujet de la tartine. On va pouvoir s'étaler sur l'iPhone S2, dire tout le mal qu'on en pense ou dire tout le bien qu'on en pense. Ça va être tout à l'heure quand j'aurai fini les articles du jour. Mais dans les articles du jour, je voulais commencer par Amazon France. Il y a effectivement pas mal de rebonds par rapport à cette histoire. Pour le rappel des faits, le tribunal de Nanterre a saisi Amazon en disant « Vous arrêtez de distribuer des produits sauf les produits essentiels. Il faut qu'on check la sécurité des 5 grands entrepôts en France Amazon pour contrôler que vous avez bien pris toutes les mesures pour la sécurité des gens qui y travaillent. » Il y a eu plusieurs réactions par rapport à ça. D'abord, une réaction qui a peut-être été mal interprétée, moi, en premier, parce que quand j'ai vu la news, j'ai fait « Putain, ils sont gonflés quand même chez Amazon ». Amazon, du coup, a dit « Ok, c'est comme ça, bah, on livre plus rien. On livre plus rien. On ferme tous les entrepôts. C'est même pas une question de les laisser ouverts pour les produits de première nécessité. On ferme tous les entrepôts. Vous faites votre contrôle, puis après, on voit. » Moi, je l'ai vraiment pris comme une espèce de passivité agressive d'Amazon, disant au tribunal de Nanterre et donc à la France, « Ok, vous voulez nous chier dans les bottes ? Bah, vous allez voir. Nous, on fera plus rien, on distribue plus rien. » Et j'ai trouvé ça quand même un petit peu culotté de la part d'Amazon. Mais bon, après, il fallait lire entre les lignes. Amazon a justement fait preuve de zèle en disant, si on veut vraiment contrôler les entrepôts pour voir si toutes les mesures de sécurité, les nettoyer à fond, etc., on les ferme complètement. Ce qui a provoqué des réactions en demi-teinte, parce que une partie des syndicats ont été contents, mais une partie des gens qui travaillent dans les entrepôts Amazon ont dit là on peut plus aller bosser quoi. Donc c'est pas top du tout. Je résume un petit peu. Surtout que bon, moi c'est des témoignages que j'ai lus, hein, tirez pas sur le messager. Certains disaient mais justement là autant au début ils nous ont fait prendre des risques parce que il y avait enfin la sécurité était pas maximum. Mais là on a 3 masques par jour, on a vraiment les distances qui sont respectées, le travail se passe plutôt dans de bonnes conditions. Donc est-ce que c'est pas un truc qui a pris un peu de retard à l'allumage et du coup bloque. Je le laisse à l'interprétation de la chatroom et de ceux qui écoutent. Et surtout, c'est peut-être ça le truc le plus intéressant, c'est que Amazon a rassuré aujourd'hui. Ils ont dit, on va continuer à livrer et on va continuer à livrer tout ce que vous voulez. On ne va pas s'arrêter aux produits de première nécessité. Tout ça en fermant nos 5 entrepôts. Ah bon, vous n'avez pas besoin des 5 entrepôts? Bah, ce que dit Amazon, c'est que justement le système des entrepôts en Europe est tellement sophistiqué, le maillage est tellement serré, que ils vont continuer les livraisons en France sans utiliser les entrepôts français, en utilisant les entrepôts d'autres pays européens. Donc les délais vont être allongés, vous serez informé sur Amazon si vous faites une commande Amazon, mais les livraisons ne seront ininterrompues. Ça fait à la fois... peur, froid dans le dos. Ouais, enfin, ça fait froid dans le dos. Ça montre à quel point la mécanique Amazon est bien huilée, que le maillage de l'ensemble des territoires est tellement fort que pour, entre guillemets, pour faire vaciller Amazon, il en faut plus que ça. Certains... Moi, ce qui m'énerve dans ce dossier, je vous le dis après, je vais prendre quelques témoignages dans la chatroom, ce qui m'énerve dans ce dossier, c'est que Et je vais mettre plein de post-it sur ce que je dis, parce que sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Je veux bien qu'Amazon fasse de l'abus et que ça soit un méchant. Je veux bien. Partons de cette hypothèse-là, Amazon est un méchant. Mais est-ce que c'est le seul distributeur méchant ? Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un acharnement sur Amazon parce que c'est le premier de la classe. Je ne comprends pas. Alors, je comprends techniquement que le tribunal de Nanterre est et rendu cette décision de justice puisque les plaintes étaient déposées à l'envers d'Amazon. Mais je serais formellement contre une quelconque loi qui viserait spécifiquement Amazon. Si on doit prendre des décisions pour réguler et éviter les abus, ça doit s'appliquer à l'ensemble de la distribution. C'est trop facile de dire Amazon c'est des grands méchants, c'est Discount c'est des gentils. Enfin tu vois il y a un moment parce que c'est des Français. Enfin je crois qu'ils le sont plus. Mais bref ou la Fnac, ils le sont encore, je sais plus. Y a-t-il encore un distributeur français dans la salle? C'est trop facile et c'est anti-concurrentiel. Je comprends qu'Amazon cristallise un tas de haine et qu'ils ont tué un certain commerce, etc. Mais je pense qu'ils cristallisent un ras-le-bol et des haines, mais que ça doit pas être les boucs émissaires. Voilà. Qu'est-ce que vous dites c'est Discount, c'est encore français. C'est Casino M6, ok, qui a le truc. Ceux qui comprennent pas la mondialisation, qui font du bashing pour préserver le commerce, que ont vu grandir. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je viens d'une génération où c'était les supermarchés, les carrefours et tout ça qui tuaient le petit commerce. Et maintenant, on en est à défendre les carrefours, etc. Non, mais je rigole. Je rigole jaune comme mon t-shirt. Il faut moi au contraire, je trouve qu'il y a des opportunités formidables en ce moment pour des petits commerces de devenir des plateformes de distribution mondiale. Mais c'est évident que le commerce doit évoluer et il a toujours évolué. Le commerce, c'est très intéressant d'ailleurs d'un point de vue historique, l'évolution du commerce et des systèmes de commerce, parce que c'est des reflets de nos sociétés. Aujourd'hui, il est irréfutable que les besoins des consommateurs et les envies des consommateurs ont vraiment évolué. On ne reviendra pas en arrière. Le truc de je veux aller acheter mes livres en librairie et mes courses chez les commerçants du quartier, il y a que les bobos qui le font. Il y a que les bobos privilégiés qui habitent en ville, hein, parce que quand vous habitez dans un coin où faire ses courses chez le commerçant local, ça oblige à prendre la bagnole et à faire 2 heures de bagnole pour aller aux différents points, c'est pas si simple. Alors, je veux pas me prendre tous les bobos à dos, hein, j'en suis un aussi. Mais le discours un peu Sainte-Nitouche, il faut défendre le commerce local, mais de manière intelligente. Il y a des commerces locaux qui doivent évoluer aussi. On va pas revenir en arrière sur notre manière de consommer. Aujourd'hui, il y a des côtés hyper pratiques de pouvoir commander en ligne, etc. Après, les librairies, attention, hein. Moi, je suis aussi pour que les librairies survivent. Mais même si c'est un peu dur de dire ça, je pense pas que toutes les librairies pourront survivre. C'est comme les disquaires. À une époque, moi j'ai connu une époque, il y avait des disquaires de partout. Maintenant, il y en a plus que quelques-uns. Certains ont survécu. Le marché a évolué. Maintenir des commerces à bout de bras alors que le marché a évolué, C'est toujours triste hein, de voir des gens devoir changer de métier ou perdre leur boutique ou etc. ou perdre leur emploi. Mais il vaut mieux déployer son énergie à l'accompagnement de la mutation et du changement qu'à essayer de défendre des commerces qui n'existent plus de toute façon. Voilà. On revient, enfin vous le connaissez, c'est mon vieil argument des mines de charbon. Les mines de charbon, on les a subventionnées alors que les gens n'utilisaient plus de charbon pour se chauffer. Il faut faire attention à pas maintenir artificiellement des activités qui sont vouées, de toute façon, à disparaître. Le gros débat de la matinée, est-ce que le t-shirt de Jérôme est jaune ou orange ? Moutarde, peut-être, un petit peu. Calibrez votre écran avec Jérôme. Nouveau jeu. Il faudrait subventionner les centrales nucléaires. Ouh là là. Ok, je ne regarde pas la chatroom. Je ne voulais pas faire un débat de cet article. On continue et on va parler justement du stop Covid, le contact tracing, qui vont être débattus au Parlement français fin avril. L'Assemblée nationale et le Sénat débattront à la fin du mois d'avril de la future application stop Covid. Là où j'ai un peu du mal à comprendre, on nous a dit que ça serait un peu en place le 11 avril. Ils vont en débattre fin avril. Bon, bref. Dans le cadre, effectivement, de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ces discussions prévues le 28 avril dans la chambre basse du Parlement et le lendemain pour la chambre haute ne donneront lieu à aucun vote. Et ça, c'est un truc à comprendre. Cette application, elle sera basée sur le volontariat. On ne sera pas obligé d'utiliser cette application Stop Covid. Donc, il faut raison garder. On a fait un article dessus cette semaine, ça va en limiter son efficacité, puisque il y a que ceux qui voudront bien l'utiliser, qui vont l'utiliser, et du coup, son efficacité va être très très limitée, ça va dépendre du nombre de gens qui vont être volontaires pour l'utiliser. Mais du coup, comme elle n'est pas obligatoire, il n'y a pas besoin d'un vote de l'Assemblée pour cette application. Néanmoins, il y aura la tenue d'un débat parlementaire sur l'utilisation d'une application mobile qui permet de savoir si on a été en contact prolongé avec une personne contaminée. Cette technologie, effectivement, repose sur une liaison sans fil, du Bluetooth, un signal radio à courte portée, pour détecter les smartphones à proximité et prévenir leurs propriétaires s'ils ont été en contact avec un malade. Je rappelle le fonctionnement et vous avez un petit schéma hein, ici, parce que je sais que pas mal de gens ne comprennent pas très bien comment ça va fonctionner. En fait, le principe, c'est que sur la base du volontariat, quelqu'un qui est confirmé Covid-19, qui a passé des tests, peut se déclarer, de manière bien évidemment anonyme, toutes les informations sur lui restent sur son smartphone, et du coup, tous les autres smartphones qui croiseront le smartphone de quelqu'un qui s'est déclaré comme contaminé par le Covid, recevront une alerte, ne leur disant pas à quel moment et où et qui sait, mais leur disant « Vous avez été probablement en contact sur une période relativement prolongée avec quelqu'un qui maintenant est déclaré comme porteur du Covid-19. Veuillez prendre un... » Enfin, c'est peut-être le moment de passer un test. Moi, je dis même, et ça pourrait renforcer vraiment l'efficacité si on veut vraiment utiliser cette appli, parce que j'ai des réticences hein, par rapport à cette appli, bien évidemment. Après, je serai très vigilant sur les conditions dans lesquelles sont déployées cette appli. Mais à partir du moment où on le fait, je dis qu'il faut jouer le jeu, parce que son efficacité ne sera que si beaucoup de monde l'utilise. Et si on a sorti le truc de « vous avez reçu une alerte, ça vous donne une certaine priorité pour le test du Covid-19 », ça pourrait être une incentive, comme on dit, à utiliser cette appli. Et ça serait une manière pas bête si on n'a pas des, et on n'aura pas des tests pour tout le monde, c'est une évidence. Mais que ça donne par QR code ou je sais pas quoi, justement que les gens qui reçoivent une alerte, qui ont été a priori à proximité de quelqu'un qui a le Covid-19 déclaré, la possibilité de prendre le test rapidement. Ça serait, je pense, la bonne idée. Voilà. C'est moi en tout cas, c'est ce que je pense. On voilà, le fait que cette application ne soit pas rendue obligatoire en limite nécessairement la portée, et le fait aussi qu'un quart de la population n'a pas de smartphone va limiter son efficacité. Mais une efficacité limitée vaut peut-être mieux que rien. La Corée du Sud est une démocratie aussi, le traçage des malades, et pourtant tout se passe bien, il faut arrêter la paranoïa. Psycho, si tu regardes dans le détail ce qui s'est passé en Corée du Sud, d'abord, tout n'est pas si rose que ça. Deuxièmement, mais alors je te le dis tout de go, la Corée du Sud est une démocratie, mais c'est pas une démocratie latine comme la France. On n'aurait jamais accepté, mais jamais, jamais, et moi le premier, un traçage aussi intrusif. Avec le contrôle que t'as bien pris ton téléphone avec toi, parce que il y a une forme de flicage. La Corée du Sud l'accepte parce que c'est probablement dans leur mentalité. Mais alors je peux te dire qu'en France ça passerait jamais, jamais, jamais. Je propose que ceux qui ont le Covid portent un t-shirt orange ou jaune, hein. Une étude a indiqué que les gouttelettes peuvent atteindre jusqu'à 4 ou 6 mètres en éternuant. Ah, ça y est, on va lancer des concours de gouttelettes. Allez-vous propager votre Covid le plus loin possible? En France, on est con. Oui, mais on est con français. Et on est confiné aussi. Bon, je sais hein, que les débats sont enflammés sur les choses. Non, quand je dis que j'accepterai pas certaines choses que des applis en Corée du Sud, c'est pas tellement le flicage, parce que pour moi, je sais, hein, on part dans les excès, je lis des choses que le marquage rappelle les pires heures de l'histoire. Un, il faut pas tout mélanger. Deuxièmement, si on met en place ce genre de système, il faut que la société civile ait un contrôle et que nous ayons des dates et des engagements, que tout ça ne durera que le temps de cette épidémie. On est en train de parler d'une épidémie et pas idée de marquer. C'est pas... Je sais, hein, il y a beaucoup de fantasmes autour de la peste, les pestiférés qui sont reclus de la société et qu'on n'a pas envie d'exclure des gens qui sont malades. Mais là, il y a quand même des raisons sanitaires. Et la peste du Moyen-Âge, ça peut paraître scandaleux, mais voilà, la peste du Moyen-Âge, d'avoir mis... Après, le truc, c'est qu'on les laissait crever, les pestiférés. Hein. C'est pas là la question. Mais la quarantaine, même si d'un point de vue humaniste, ça paraît très dur d'ostraciser certaines personnes et de les mettre à l'écart de la société pour conserver le reste de la société, c'est quand même nécessaire. Il faut trouver la bonne mesure. Là où je dis que les mesures de la Corée du Sud, je les aurais pas acceptées, c'est que eux, il y a vraiment des systèmes de traçage GPS, de trajet. Enfin, ça va très très loin hein, quand même leur système de traçage. Je sais pas d'ailleurs, je sais pas s'ils ont suffisamment de garanties pour que tout ça disparaisse. Après cette crise du Covid. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on nous dise oui, mais attention, il risque de revenir dans les 2 ans à venir, ça va prolonger un petit peu tout ça. Et puis finalement, on va s'habituer et on pourra pas revenir en arrière. Voilà. Désinstaller à l'app quand ça sera fini. Oui, 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 tout à fait. Moi, je pense qu'il y a du bon hein, dans cette appli. Hein. Je pense qu'il faut aussi pas partir dans les fantasmes du flicage, traçage, machin, de l'État. Je vous ai expliqué le fonctionnement. Ça n'a absolument rien à voir avec le GPS. Et un certain nombre de garanties sont a priori pour l'instant prises. Sur non-échange de données, en fait. Mais bon, je vois qu'on va avoir de nombreux débats là-dessus. Il y aura certainement énormément de pédagogie à faire de la part du gouvernement, ce en quoi il n'est pas super bon. Donc, j'ai un petit peu peur des réactions. On continue sur les news du jour. GoPro, ça va mal, ça va très mal. GoPro est en difficulté. Ils licencient 20% de leurs effectifs. Ils vont procéder au licenciement de 200 salariés, soit 20% des effectifs. Ils vont également, les GoPro, ne plus être distribués autre part que chez GoPro.com et les Amazon, etc. Mais par contre, ils renoncent effectivement à être distribués dans les points de vente physiques, ce qui demande généralement pas mal d'argent de créer un système de distribution avec des vendeurs, etc. Donc ça va mal pour GoPro. Il devra réduire ses dépenses d'exploitation de 100 millions de dollars en 2020 et de 250 millions de dollars en 2021. Donc ça va engendrer la fermeture de certains bureaux. Le CEO de la société, Nicolas Woodman, a annoncé qu'il renonce à sa rémunération pour le reste de l'année. Bon, on sait que ces grands patrons qui renoncent à leur rémunération, c'est sympa, mais on sait que c'est pas l'essentiel de leur argent. Bon, mais c'est sympa quand même. C'est pas rien non plus, hein. Mais c'est pas ça. C'est plus un geste symbolique qu'un geste vraiment salutaire pour une boîte. Je sais pas ce qui va arriver à GoPro. Pour moi, il y a GoPro. Déjà, il y a 3-4 ans, je pensais qu'ils allaient être morts. Ils le sont pas. Ils font des produits qui tiennent bien la route encore, hein. Ils résistent bien à la concurrence sur certains points. Le truc, c'est que du coup, ils ont dû vraiment s'aligner sur des prix chinois, diminuer énormément leurs marges. Alors, c'est pour notre plus grand plaisir à nous, mais c'est pas forcément facile pour une société d'arriver à renforcer ses volumes quand elle diminue sa marge pour essayer de maintenir un seuil de rentabilité. Donc GoPro ne met pas la clé sous la porte, mais effectivement c'est une mauvaise nouvelle. 20% des effectifs, c'est quand même beaucoup. Je voulais vous parler aussi de Boosted Board, pour qui ça va très très mal, comme quoi, mais je ferai un dossier un jour en dehors des histoires idylliques de la Silicon Valley. Il faut pas oublier que pour une réussite il y a une vingtaine d'échecs. Et parfois, des boîtes qui fonctionnaient bien, qui échouent. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais je trouverais ça intéressant qu'on parle aussi de... C'est toujours très intéressant de parler des échecs et d'analyser les échecs. Je trouve que c'est une info très, très intéressante. $200 millions avec ou sans taxes, et puis le patron est payé $1 symbolique. Non, 200 millions, quand j'ai parlé de 200 millions, c'est pas le salaire du patron, c'est les dépenses d'exploitation. 200 millions, dépenses d'exploitation, c'est salaire, loyer, etc., quoi. C'était frais de fonctionnement, en fait. C'est ce que, très schématiquement, tu déduis de ton chiffre d'affaires pour savoir si t'as fait des bénéfices ou des pertes. Si tes frais d'exploitation sont supérieurs à ton chiffre d'affaires, eh ben, ta boîte, elle perd de l'argent. En gros, c'est ça. Le secret de la tech pour que ça dure, c'est se réinventer et investir pour pas dormir dans ses lauriers. Tout à fait. Il faut se réinventer constamment. Mais c'est pas que le secret de la tech, je dirais que c'est même le secret de la vie. Oh, wow. Je vous ai dit, hein, le vendredi, c'est la grand-messe. Hein. Moi, j'ai mon côté prêchi-prêcha. Hein. Renouvelez-vous, mes frères. Constamment. Remettez-vous en question, sortez de votre zone de confort, investissez en vous-même. Allez, non, on va pas parler de compta, hein. Je vous promets, je vais pas vous faire un cours de compta, surtout pas moi. Si un jour je vous fais un tuto sur la compta, désabonnez-vous tout de suite de la chaîne, je suis devenu fou, dangereux. Notez bien ça. Si jamais un jour je fais un tuto réussir sa compta, même avec un iPad, hein. Réussir sa compta avec un iPad. Si vous voyez un tuto comme ça sur la chaîne, je vous conjure de vous désabonner tout de suite, de me déclarer fou et d'envoyer des mecs avec une... Parce que non. Non, non. Vous me balancez des graviers, vous me lapidez à coups de gravier. Exactement. C'est noté. Merci bien. Parlons un petit peu de clavier pour l'iPad. Et non, je vais pas parler du clavier magique de chez Apple que oui, j'ai acheté. Ça coûte plus cher qu'un iPhone SE, c'est quand même fou. Faisons un pronostic. Combien de titres français seront le clavier plus cher qu'un iPhone? Pronostic. YouTuber anglais, américain et français et francophone confondus. On va faire un petit bingo. Combien utiliseront le titre le clavier aussi plus cher qu'un iPhone? 80%. Dolce. Salut à toi, Dolce. Merci d'ailleurs, j'ai vu que tu étais devenu YouTube member sur la chaîne. Ça fait plaisir. 80%. Ah ouais, vous deux tous, 80%. 75%. 50%. Moi, je serais plutôt Team Vaea. Je dirais 40-50%. Déjà, moi, je le ferais pas. Ou. Vous me connaissez. Je suis un petit taquin. Peut-être que je fais ça pour que les autres youtubeurs se disent « Ah merde, il sait le titre, vite, il faut qu'on change de titre. » Et comme ça, je serai le seul à avoir le titre « Le clavier plus cher qu'un iPhone. » On verra. J'ai pas mon titre. Déjà, j'ai pas le clavier. Mais oui, il est commandé, on le testera. Non, je vais pas vous parler donc du clavier magique d'Apple. Je vais vous parler des claviers magiques de Logitech. Et oui, parce qu'il n'y a pas que Apple qui va sortir des claviers avec trackpad. Logitech vient de sortir, justement. On peut les commander d'ailleurs sur l'Apple Store. Je sais pas si on peut les commander ailleurs, à vérifier s'ils sont dispo. Ils sortent un clavier avec touch, qui vont s'appeler les Combo Touch, pardon. Ils en sortent deux versions. Il y en a une qu'on pourrait utiliser sur l'iPad 7e génération, les iPads 2018. L'iPad Air. Et il y en aura un aussi pour l'iPad Pro, mais le 10,5 pouces. Et c'est des claviers, ça la bonne nouvelle, ils sont chers quand même, mais beaucoup moins chers que les claviers d'Apple, 149 € pour le clavier. Donc si vous voulez acheter un clavier avec un trackpad pour votre... Je vais essayer de voir si je peux mettre la main dessus, et il faudrait qu'on contacte Logitech et voir si en ce moment... ils peuvent m'en envoyer un, parce que ça m'intéresserait beaucoup de tester aussi ces claviers Logitech alternatifs. Par contre, il n'y aura pas de clavier Logitech à ce prix-là pour les nouveaux iPad Pro. Ça, il faudra passer par la case du Magic, en tout cas pour l'instant, du Magic Keyboard de chez Apple. T'as une photo? Ben oui. Bien sûr que j'ai une photo. Tu croyais que j'allais oublier de vous le montrer? Merci d'y avoir pensé. Voilà, ils vont ressembler à ça. Bien, moi, je trouve. Après, il faut les avoir en main. Mais je trouve ça assez classe. Sobre. Petit support stylet. Alors, oui, on n'est pas dans le zigouigoui. J'ai mon clavier qui flotte en l'air, mon cul, là, du clavier magique. Mais ça m'a l'air assez efficace. Un côté très surface. On est tout à fait d'accord. Hein. On dirait une surface. Mais ça peut donner effectivement beaucoup, beaucoup d'intérêt à des iPads un petit peu plus anciens. Mais comptez sur moi pour justement... moi, je vous invite pas à acheter forcément un iPad Pro, que je trouve très cher. Il y a des iPads, iPad Air, les iPads 2017, 2018, enfin le 7e génération et tout ça, qui pour certains usages suffisent largement. Même pour de la petite bureautique, et d'y adjoindre un clavier avec un trackpad, why not? Why not, why not? Ça ressemble de plus en plus à un ordi. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Moi qui connais bien l'iPad, vu de l'extérieur, je comprends que vous ayez cette réaction-là, mais souvent, les gens qui ont cette réaction-là n'ont pas justement d'iPad. Et ce que Apple, et je fais mon Apple fanboy, mais je trouve que là, pour le coup... ils ont bien réussi, c'est une intégration de la souris ou du trackpad qui ne dénature pas le côté touch first des iPads. C'est-à-dire que votre iPad reste quand même 100% fonctionnel sans son trackpad, sans son clavier. Ce qui n'est pas le cas d'un ordinateur. Un iPad est d'abord fait pour être utilisé dans la main avec le touch. ça ne devient pas un ordinateur. Mais comme visuellement, vous voyez un clavier, un trackpad, vous vous dites ça devient un ordinateur. Faut vraiment essayer pour comprendre ce que je suis en train de dire. En fait, le clavier et le trackpad deviennent des outils de confort dans certaines applis. Par exemple, si vous faites du traitement de texte. Mais il y a plein d'autres applications qui sont conçues pour du touch first et vous n'aurez absolument pas besoin d'un trackpad pour avoir un confort optimum dans ces applications. Contrairement à une Surface, ceux qui ont une Surface me comprendront, qui sont des super petits PC, mais c'est pas vraiment optimisé, les logiciels ne sont pas optimisés pour une vraie utilisation touch Surface, quoi. Le clavier Logitech est sûr pour iPad et que pour iPad ? Oui, c'est que pour les iPads. Et certains modèles, hein, renseignez-vous avant de les acheter. Mais ils sont compatibles. Et la dernière news du jour, qui va être un enchaînement forcément avec notre sponsor, vous l'avez peut-être vu, je l'ai relayé sur Twitter, où vous êtes peut-être au courant, c'était un triste jour hier, effectivement, puisque Emmanuel Freund, qui est un cofondateur de Blade et du Shadow PC, qui est quelque part un peu l'inventeur, vous l'avez souvent vu dans des interviews sur la chaîne. Moi, je suis Shadow depuis le début, bien avant qu'il devienne sponsor de notre émission du matin. C'est quelqu'un d'absolument passionnant. Il a annoncé effectivement hier qu'il quittait Blade et le projet Shadow pour se consacrer à d'autres projets. Il n'a pas caché qu'il partait pour des divergences par rapport à aujourd'hui la société Shadow, c'est beaucoup de personnes, beaucoup d'actionnaires, beaucoup de dirigeants. Il n'est pas le seul fondateur. Il est aujourd'hui en désaccord avec certaines décisions prises sur l'avenir du Shadow. Et du coup, de toute façon, on le sentait venir parce que déjà depuis plusieurs mois, il n'était plus PDG de Blade et il avait laissé la place à Jérôme... j'ai un trou de mémoire. Jérôme Arnaud, qui était le PDG de la boîte. Et effectivement, il était un petit peu il commençait à être en retrait, donc... Moi, je vous le dis, parce que je connais un tout petit peu les gens de chez Shadow, c'est pas une surprise, c'est une tristesse. Il l'a très bien dit lui-même dans le live, il a fait un live hier avec Victor. Il a dit « C'est dur pour moi de quitter mon enfant, mais je ne suis plus d'accord avec certaines décisions que prend mon enfant. » Donc, comme un vrai enfant, il faut savoir aussi le laisser partir. Pas être constamment, il veut pas devenir le papa chiant. Lui, il aurait fait autre chose avec son Shadow PC. Les décisions ont été prises pour amener le Shadow PC sur d'autres directions. Il ne se sent plus en accord avec ça. Il fait bien de partir. Alors attention, il part, mais il revend pas ses parts. il reste actionnaire. Je pense dans les actionnaires majoritaires de Blade, donc il garde un gros pied dans la boîte, bien évidemment. Il sera juste plus à l'opérationnel de Shadow. Je pense qu'on en entendra toujours parler, hein, de toute façon, d'Emmanuel. On en entendra parler probablement sur ses nouveaux projets, mais après, on va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt. Moi, c'est une tristesse. Emmanuel, c'est quelqu'un que je connais depuis le début. Le Shadow est un produit que j'aime énormément, malgré ses défauts. Je sais que ça marche pas pour tout le monde, mais je trouve que c'est un produit qui est incroyable. Et chaque jour où j'allume mon Shadow PC, je dis que c'est incroyable de vivre ça. Et je continue à aimer. Attention, c'est pas parce qu'Emmanuel part que j'aime plus le Shadow PC. Hein. C'est pas voilà. J'ai beaucoup d'amitié pour Emmanuel, mais j'aime beaucoup son produit. Mais c'est vrai que c'est une page qui se tourne. Toi aussi, t'as laissé partir ton enfant de 3 ans. C'est pas bien, Arnaud. Tu vas le chercher. c'est alors une page qui se tourne. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit. C'est pas forcément une mauvaise histoire qui va s'écrire. Moi, je sais pas. Après, je suis pas dans les fonctionnements de chez Shadow. Je sais pas si c'est un mal pour un bien pour un mal pour un bien pour un bien. On sait pas. Ça va juste être probablement un petit peu compliqué là pour Shadow d'encaisser. C'est un changement de culture. Pour avoir vécu ça dans plein de boîtes que j'ai fréquentées dans ma vie professionnelle, c'est toujours difficile le changement culturel d'une entreprise, surtout quand c'est une entreprise qui a démarré avec un tout petit groupe de personnes qui sont un peu les pionniers. Qui ont du mal d'ailleurs parfois à s'adapter à une nouvelle culture d'entreprise qui forcément, vous savez, on revit l'histoire du monde, hein, il y a toujours eu des tensions entre les pionniers et les colons dans la colonisation d'un pays ou d'un territoire. Ceux qui défrichent le terrain ont parfois l'impression qu'ils ont connu les périodes dures et que les colons qui arrivent, ils vont se la couler douce. Les colons qui arrivent, ils disent « Ouais, vos méthodes de pionniers là, ça va bien, hein, on va arrêter de tuer les Indiens, ou alors on va faire ça de manière organisée. » Enfin, je schématise, mais c'est horrible ce que je dis. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et certains d'entre vous qui travaillent dans des grandes boîtes, qui ont été rachetées, qui doivent adopter des nouvelles cultures d'entreprise, savent à quel point c'est difficile, le changement culturel. Du coup, ça donne quoi pour votre partenariat? Écoute, pour l'instant, c'est absolument pas remis en cause. Comme je le précise bien, le Shadow PC est un produit qu'on continue à aimer et le départ d'Emmanuel n'y changera rien. Après, si eux ont plus tard une nouvelle stratégie de communication et qu'on fait pas partie de leur mix marketing, eh ben voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Je le souhaite pas, hein, je vous le cache pas. Ouais, non, c'est là où je suis pas d'accord avec certains messages que j'ai vus. C'est pas parce qu'Emmanuel part que le Shadow... Surtout que c'est... Et il le dit lui-même, hein. Le Shadow PC n'a jamais aussi bien fonctionné qu'en ce moment. Je sais, il y a des retards de livraison sur des nouveaux produits et tout. Mais quelque part, le coronavirus, ça a été vraiment un proof of concept que le PC dans le cloud a vraiment de l'avenir et que c'est une solution super. Moi qui l'utilise maintenant en streaming sur Twitch... C'est vraiment l'outil parfait pour streamer, à part peut-être la gestion de la caméra et du micro, mais ça, vous le faites avec un petit PC à côté. Mais de pouvoir utiliser la bande passante des serveurs et pas la vôtre pour streamer, ça t'explose le cerveau sur les possibilités. Je suis... Waouh ! C'est vraiment bien. Donc, effectivement, aujourd'hui... Vous savez, je pense, pour connaître Emmanuel... je pense que lui, par exemple, parce que là, vous êtes en train de dire « c'est la fin, Emmanuel part, il n'y aura plus l'esprit du produit », je sais qu'Emmanuel n'était pas vraiment pour la baisse de prix des Shadow. Ça a été une grosse décision, effectivement, chez Blade, le 13€ pour les Shadow Boost. C'était pas l'optique qu'Emmanuel avait pour son produit. Lui voyait plutôt effectivement pour atteindre des seuils de rentabilité qui n'ont pas encore une forte marge en fait sur le produit Shadow pour développer vite une rentabilité plutôt qu'une recherche d'audience par des prix bas qui forcément rendent la recherche de rentabilité un petit peu plus compliquée. Donc vous voyez, Emmanuel avait des visions du produit qui... On n'était peut-être pas forcément d'accord. Moi, personnellement, je trouve que cette baisse, par exemple, à 13€, est une super idée. Après, ils ont un peu du mal à livrer le produit derrière de cette nouvelle gamme, mais je trouve que ça reste une super idée, quoi. Alors, si vous connaissez pas Emmanuel Freund, allez voir les interviews. J'en ai au moins fait 3-4 interviews d'Emmanuel Freund sur la chaîne. J'aimerais bien aussi qu'Emmanuel parte... Ah, on parle pas de politique. Non, on parle pas de Macron, non. Je parle d'Emmanuel Freund, fondateur, cofondateur de Blade et de Shadow. Tout ça pour enchaîner. Le Shadow, pour l'instant, ça reste effectivement notre sponsor. Vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines. Et aujourd'hui, roulement de tambour, c'est le gagnant de la semaine. Alors, le gagnant de la semaine, roulement de tambour, continue à rouler du tambour. Je vais vous entendre dans la chatroom, les roulements de tambour. Hein, les petits tambours. Aujourd'hui, c'est... Roulement de tambour toujours. Bowling Brain qui a gagné le Shadow PC. Il nous envoie un message. Je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour jouer à des jeux et streamer en même temps. Actuellement, mes lives sont impossibles à regarder tellement ça bug à cause de mon vieux PC. Bah écoute, j'en parlais tout à l'heure, Bowling Brain, et c'est vrai que pour streamer ton jeu, c'est un super produit. Merci hein, pour les roulements de tambour, Isabelle. Y en a qui jouent le jeu au moins dans la chatroom. Donc, si vous voulez gagner vous aussi et vous voulez jouer pour gagner un mois de Shadow PC gratuit, il faut faire comme Bowling Brain, vous composez un tweet dans lequel vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC, pourquoi faire, parce que je trouve on aime bien ces petites histoires, votre storytelling. Mais par contre, exactement comme Bowling Brain l'a fait, n'oubliez pas de mettre le hashtag Shadow PC et le hashtag le mug Nowtech, parce que sinon je ne vous trouve pas pour le tirage au sort du vendredi. Voilà. Yop. Voilà, en tout cas, nous, on remercie Shadow, on pense à tous ceux qui travaillent chez Shadow. C'est jamais une période, et les nouveaux et les anciens, c'est jamais une période facile, les transitions culturelles dans une boîte. Mais ce que j'ai envie de dire par expérience, c'est parfois un mal nécessaire. Voilà. Parfois un mal nécessaire. Sur ce, je vous propose qu'on passe à la tartine de cette émission. On va s'étaler sur l'iPhone SE. Je vais vous expliquer pourquoi. Il aura quand même un meilleur appareil photo que le 10R. Bref, ça va clasher et c'est tout de suite dans la tartine. Et on va parler effectivement de l'iPhone SE, pas 2, hein, 2020, puisque je j'aime pas du tout leur politique. Je trouve extrêmement snob, ça va être mon premier pavé dans la mare, extrêmement snob l'appellation des produits chez Apple. Ah oui, non, mais on va pas l'appeler le SE2, c'est pas assez élégant, on va juste l'appeler SE. Mais bouffon, il y avait déjà un SE, comment on va faire avec le marché de l'occasion? Il va falloir que nous, qu'on écrive des lignes. Alors c'est l'iPad 7e génération, truc muche 2018, tout ça parce que tu veux juste que tous tes iPads s'appellent iPad, quelle que soit l'année. Bouffon, va. je m'énerve tout seul. Mais en même temps, je m'énerve, mais je suis complètement d'accord avec moi-même. Je trouve ça ridicule, cette nomination chez Apple. Apple est en train de devenir aussi ridicule que Sony sur l'appellation des produits, mais à l'extrême inverse. Là où Sony va sortir des casques XNMP 246-TP27, des trucs imprononçables que personne ne retient, des trucs d'ingénieurs. Je n'ai rien contre les ingénieurs. Apple. Non, mais à ce moment-là, allez jusqu'au bout, Apple. Arrêtez d'appeler un iPhone, un iPad. Vous appelez ça Just Apple. It's an Apple product. Who cares? Hein? It's a watch, it's a phone, it's a computer. Fuck you. It's an Apple. Voilà. Tous vos produits, vous les appelez Apple. D'un autre côté, il ressemble tellement à un vieux truc normal de l'appeler avec un ancien nom. Ah, ça y est, ça fight. Moi, je vais vous dire ce que j'ai dit hier aux contributeurs, parce qu'on a déjà eu le débat avec les contributeurs. Je pense que l'iPhone SE n'est pas fait pour vous. C'est tout. Il est fait pour des gens qui n'en ont absolument rien à foutre que l'écran ait 3-4 ans. Ils en ont absolument rien à foutre que le look soit celui de 2015. Ils en ont absolument rien à foutre de tout un tas de choses. Ce qui leur importe, c'est le prix. Et, je vais aller plus loin, vous pourrez leur dire, oh non, mais si tu veux du prix, t'as qu'à acheter un Android. Les Android, c'est vachement moins cher. Attends, j'ai vu le MI, je sais plus combien, il est à 130 euros. Achète un Android, fais pas ton imbécile. Je vous l'avais déjà expliqué pour le dessert. Quelqu'un qui veut un iPhone... c'est exactement comme quelqu'un, quand vous lui proposez des fruits, qui veut une pomme. Vous avez beau lui dire que les oranges, c'est 3 fois moins cher que la pomme, et que c'est tout aussi puissant, et que ça va aussi le nourrir. S'il veut une pomme, il ne démordra pas de la pomme. bon jeu de mots, ça. Et il y a une catégorie d'acheteurs d'iPhone, des gens, des ados, des gens plus âgés, des gens qui en ont rien à foutre de la tech, qui ne regardent pas nos émissions. C'est un produit parfait pour eux. Voilà ce que j'en pense. Le reste, ils s'en tapent. Mais si vous saviez à quel point ils s'en tapent, il n'y a que nous pour nous masturber sur des résolutions d'écran. Il n'y a que nous pour qui c'est important que la mémoire qui est embarquée dedans, ça soit la dernière génération. Il n'y a que nous qui accordons de l'importance à des looks de smartphone que de toute façon 99% des gens vont mettre dans des coques. Il n'y a que nous que ça intéresse. Alors, on est une cible importante, mais nous, on achètera l'iPhone 12. Alors, arrêtez de vous dire « Mais qu'est-ce que c'est que cet iPhone SE que j'achèterai jamais ?» Bah ouais, c'est qu'ils ont réussi leur coup. Il n'est pas fait pour toi. Et je vais même aller plus loin. Je pense que Apple a fait une chose que je trouve très bien en termes marketing. Enfin, très bien. Non, je trouve pas ça très bien parce que c'est des techniques d'Apple. Mais quelque part, visuellement, leur gamme est claire. Tu rentres, en tout cas pour les iPhones, pour les iPads, je suis beaucoup plus réservé. Mais tu rentres dans un Apple Store aujourd'hui, du premier coup d'œil, tu vas voir l'iPhone pas cher. Ah ouais, celui-là, il a qu'un seul objectif. Oui, on voit tout de suite qu'il est pas cher. Prenez ceux que je viens de tester, le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Vous, à une personne lambda, vous lui montrez les deux, vous lui dites lequel est le plus cher. Il va le voir quand même au bout d'un moment, mais son réflexe, c'est le plus grand. Mais on voit pas tellement, il n'y a pas tellement de différence, en fait. Donc voilà. Et une chose que je trouve assez intéressante, et je suis impatient de le tester pour ça, bien évidemment, il a le même capteur que l'iPhone XR, qui était un très bon capteur, hein, rappelez-vous-en. Mais il va avoir quand même... Il va faire quand même de meilleures photos. En tout cas, a priori. Pourquoi ? Pourquoi ils ont réussi à mettre le mode Smart HDR, les vidéos Quick Take et la stabilisation en 4K sur le nouvel iPhone SE et que ça ne sera pas sur l'iPhone XR ? Eh bien, tout ça, c'est la puissance du processeur. Et ceux qui se disent pourquoi ils ont mis un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux, parce que c'est... On peut schématiser le SE comme ça. Eh ben, vous avez la réponse. C'est pour le traitement des photos. Et là, vous dites, oui, mais si ça marche sur le... Vu que c'est que du logiciel, pourquoi ils ne le mettent pas sur l'iPhone XR ? Eh bien, ça va vous faire rager. Parce que, quelque part, ils pourraient. Mais la photo serait une fraction de millième de seconde plus lente, puisque le processeur A11 du XR ne suivrait pas aussi vite que l'A13. Et c'est cette expérience que Apple ne veut pas que les gens aient avec l'iPhone XR. Voilà ce qui explique, en tout cas pour moi, l'importance du processeur A13 dans l'iPhone SE. Voilà ce que j'en pense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, c'était l'A12 dans le XR, pardon. Oui, c'était l'A12. C'est dans l'iPhone 8, l'A11. Le SE est parfait pour ceux qui n'ont jamais utilisé d'iPhone. Entre autres. Non, c'est la 13 hein, dans l'iPhone SE. C'est le même processeur que l'iPhone 11. Hein. Et la couleur, bah, y a noir, blanc et rouge. Ça, je trouve ça un peu tristoun, perso, mais... La photo de l'iPhone SE et le mode nuit... Eh ben écoute, on testera. Je pense que oui, ils ont la puissance de processeur pour le mode nuit. Je pense qu'on l'aura, mais à voir. Oui, je vais tester l'iPhone SE. Si j'arrive à mettre la main dessus tout à l'heure à 14h, parce que s'il y a beaucoup de commandes et que je le reçois trop tard, je ne testerai pas. Tu vas remplacer ton 5C. Voilà, bah écoute, il y a une clientèle. En fait, c'est ça qui... C'est parfois un peu difficile à comprendre, mais... un marché, c'est segmenté. Et c'est pas parce qu'un produit, vous le trouvez nul pour vous, qu'il est nul. Il est simplement adapté à une certaine cible. Après, s'ils en vendent pas du tout, rendez-vous dans 6 mois. Si Apple a vendu très peu d'iPhone SE, on dira... Apple a sorti un mauvais produit. Voilà. Et encore, on peut pas forcément juger de la qualité même d'un produit sur ses chiffres de vente, mais on pourra dire qu'Apple a sorti un mauvais produit que les gens n'attendaient pas. Non, il n'y a pas de prise jack. Non, il n'y a pas de prise jack. Pour moi, l'iPhone SE est parfaitement inadapté pour vous, mais parfaitement adapté pour une grosse clientèle. Il va se vendre pour moi aussi bien que le premier SE. Il va se vendre très bien, les jeunes qui désirent. Es-tu un boomer ? Non, je ne suis pas un boomer, je suis génération X, moi. Je ne suis pas de la génération baby boom. Enfin, techniquement, je ne suis pas un boomer. Après, j'arrête pas de me faire appeler boomer. Pas de mode nuit sur le SE2. D'accord, il y aura. Ah, bah, il n'y a pas de mode nuit alors. Bah, écoutez. De toute façon, voilà, il faut attendre un peu le test. Si le nouveau SE avait existé il y a 3 mois, je l'aurais acheté. Je t'aurais pas acheté ton iPhone 11. Ouais, bah tu vas dans mon sens. Hein. Et ceux qui disent ça reste trop cher, franchement, vu le processeur qu'il embarque, là j'aurais jamais cru dire ça d'Apple sur les iPhones. Je dis ça depuis 2 ans au niveau des iPads. C'est que Apple est très généreux sur la puissance des iPads en rapport du prix. Et ça vous est peut-être difficile à entendre, mais Apple pratique des prix très bas sur ses iPads. Je parle pas des iPads Pro, hein. Je parle des iPads. En mettant quand même des très bons processeurs dedans. Et ben là, ils commencent à le faire sur les iPhones. Ça peut. Alors, soyons bien clairs. Pour moi, l'iPhone 11 Pro est hors de prix et même trop cher par rapport à ce qu'il fait. On reste d'accord là-dessus. Par contre, je trouve que l'iPhone SE est à un très bon prix par rapport à la puissance embarquée. Et je suis même surpris qu'Apple arrive à faire un produit comme ça. Alors, évidemment, c'est un produit qui leur coûte beaucoup moins cher à développer parce qu'ils prennent de l'existant, ils le rebundlent. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à faire des prix extrêmement agressifs. Et là, moi, je vous dis même une chose, il y a certains fabricants chinois qui doivent dire « Ah, merde !» Ouais. Ouais, vous allez voir. En vidéo, le SE, moi je pense que exactement comme, vous savez, la vidéo où je vous montrais comment faire du YouTube pour 400€ en utilisant un iPhone XR ou un Oppo ou un smartphone Android Oppo. Le XR était aussi génial quasiment que le 11 en vidéo. Et je pense que oui, ils ont sorti. S'il y avait une prise jack, il serait juste parfait. Mais il n'y a pas de prise jack. Mais au niveau de la vidéo, si vous voulez vous lancer sur YouTube à peu de frais, à mon avis, l'iPhone SE est un excellent achat. Voilà. Oui, c'était l'Oppo Reno 2 que j'avais mis. Oui, je vais faire un test du SE. Mais vous arrivez toutes les 5 minutes, on me pose la question toutes les 5 minutes. 64 gigas de stockage. C'est pas le seul stockage, hein. T'as 128 et 256 aussi. Mais c'est plus cher. Quand on a un 8, est-ce que c'est intéressant de changer? Julien, je vais revenir sur mon vieux leitmotiv. Je suis pas là pour vous encourager à acheter des produits si vous n'en avez pas besoin. Si t'as besoin d'un nouveau iPhone parce que ton 8 ne correspond plus à tes besoins, change et n'attends pas. Si t'en as juste envie, attends. L'envie n'est pas un assez bon moteur pour prendre, changer de technologie, jeter, polluer ou quoi que ce soit. Besoin, oui, ça se justifie. Pas de 512. Ça m'aurait paru complètement incohérent qu'ils sortent un iPhone SE avec 512 Go. Parce que si t'as besoin de 512 Go sur ton smartphone, t'as besoin de quelque chose de plus puissant qu'un iPhone SE. Donc, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, les boomers, ça s'arrête à 1960. C'est les gens qui sont... En fait, c'est les gens qui sont nés après guerre, pendant la guerre ou après guerre, qui ont fait partie de ce qu'on appelle le baby boom. Mais je sais que c'est un peu devenu le terme générique pour dire vieux, boomer. Donc, sachez-le, vous êtes tous le boomer de quelqu'un. On est toujours le vieux de quelqu'un. Non, moi, je fais partie de la génération X. Celle qui est juste avant la génération Y, les millennials. Ça manquait le point boomer. C'est vrai, Olex, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le rectificatif boomer. Honnêtement, je commence à l'accepter parce que l'autre jour, j'ai entendu en stream un gamin qui disait « Oh, mais tous les gens qui ont plus de 30 ans, c'est des boomers. » Ok, donc c'est devenu n'importe quoi. Comme ok. Si vous avez plus de 30 ans, vous êtes un boomer. Ça me va. Le design du 5S te manque tellement personnellement. C'est d'ailleurs d'autant plus drôle qu'il ramène, d'une certaine façon, le design du 5S, à mon avis, dans le futur iPhone 12, avec les bords carrés, que moi, j'aimais bien aussi. Voilà, on a terminé la tartine. On est déjà 5 minutes de retard sur l'horaire, donc on va quand même faire un cornfac, mais il va durer que 5 minutes. J'ai énormément d'autres boulots à faire aujourd'hui, et j'ai surtout une réunion dans pas très très longtemps, mais... Je vais pas vous laisser sans cornfac, et les cornfac, c'est maintenant tout de suite. Et les cornfac, donc j'ai une question Platinium, j'ouvre mon Flipboard, parce que tu le sais peut-être pas Samuel, mais je n'utilise pas Flipboard pour vous présenter, donc il faut que j'aille le réouvrir. Hop, la question Platinium qui est une question prioritaire. Attends, pourquoi je retrouve pas mes préparations? Hop. Ok, alors question de Louis, question Platinium de Louis qui me demande « Salut Jérôme, quel avis as-tu sur le fait de continuer à payer les services Netflix, YouTube, etc. plein pot alors que leur qualité a parfois très fortement baissé ? Un des arguments de vente est pourtant la qualité avant le catalogue. Bisous la team. » Écoute, là Louis, tu vois, t'es en train de me poser la question mais tu t'es déjà donné la réponse. Je sais, hein, on fait souvent ça avec moi. Je suis un bon rebond. Mais tu connais déjà ta réponse, en fait. Tu l'as déjà en toi, Louis. Tu trouves que la qualité a baissé. Bah, arrête de payer. Je veux dire, si tu n'y trouves plus ton compte, arrête ton abonnement. Je vais pas te donner un avis. Mon avis, il est plus général. Si quelque chose que tu payes ne te convient plus, ne le paye plus. Voilà. Je sais que c'est parfois difficile parce qu'on se dit « Ah ouais, mais ça va peut-être un peu revenir. » Donc, je vais le garder. Puis parfois, on a la flemme. « Oh là là, ça va être compliqué de se désabonner. Il va falloir que je retrouve mon code, que je décoche une case. » Donc, on laisse traîner. Mais quelque chose qui ne te convient plus, c'est stupide de continuer à le payer. Voilà, c'est tout. Et tu pourras, si tu as envie d'y revenir, tu y reviendras. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de facilité pour... Et franchement, vous vous rendez pas compte ce que c'était de se désabonner d'un magazine autrefois, avec les lettres recommandées et tout ça. Il y en a encore, hein, d'ailleurs, qui essayent de te piéger comme ça. Allez vous désabonner de votre salle de gym, vous allez voir, c'est pas simple. Moi, de toute façon, je me suis jamais abonné aux salles de gym, donc j'ai jamais eu ce problème. Ah si, remarque si. Je crois que j'ai fait 2 mois de salle de gym. Mais en fait, j'ai fait que du sauna, donc... Vous en foutez de ma vie, mais je la raconte quand même. Tout ça pour dire, ouais, ne continue pas ton abonnement. Si tu trouves que la qualité est plus au rendez-vous, boum. Si YouTube Premium, bah, tu trouves que ça vaut plus le coup, t'es bien compte payé. Voilà. Il reste 2 minutes, merci. Allez, je prends quelques questions. Jérôme, nous avions envoyé un mail à Cédric il y a quelques semaines, tu étais en copie. Désolé, Dolce, on a beaucoup de mal à gérer, on a un flux. de mail. Je veux pas faire ma causette. On n'est pas à plaindre, mais on n'arrive absolument pas à tout gérer en ce moment. On est une trop petite équipe. On a énormément de demandes. On a un flux de mails en continu. Je sais que plein de gens m'écrivent, essayent de me joindre, me demandent des trucs et tout. Je vous répondrai pas. Je vais pas y arriver. Il va falloir que je tranche dans le lard et que je jette tout un tas de mails. On essaye. On essaye de faire au mieux. On a parlé hein, de toi, Dolce. Cédric reviendra vers toi, mais je sais pas quand. L'iPhone 9 est pour quand? Ben, il est en vente aujourd'hui à 14h, mais il s'appelle le SE. J'ai vu l'application de prise de son Dolby On. Tu as vu l'application de son Dolby On? Non, pas testé. Jérôme, quel plugin équalisateur utilise pour ton micro dans OBS? Pour ta voix. Aucun plugin. J'utilise le mélangeur audio de base. Remplacer un iPhone 6, ça vaut le coup. Si t'en as besoin, oui. Si t'en as juste envie, ça vaut pas le coup. Mais si ton iPhone 6 marche plus très bien, tu le trouves très lent, et qu'il te fait perdre du temps, t'as besoin de changer d'iPhone. Voilà. Donc, essaie juste de différencier entre besoin et envie. Quel réflexe hybride pour moins de 500 euros? Alors, déjà, réflexe hybride, ça n'existe pas. C'est soit un réflexe, soit un hybride. Mais c'est pas grave. C'est franchement pas grave. Moi, je dis tout de suite, je continue à dire la chose suivante. Si tu as moins de 800 euros, garde ton smartphone pour faire de la photo. Tu n'auras pas un gain de qualité énorme à 500 euros en passant en hybride. Et si déjà tu fais la confusion entre réflexe et hybride, t'as un certain nombre de choses à apprendre avant d'en acheter un. Ou alors acheter un réflexe ou un hybride d'occasion avec ses objectifs à moins de 500 euros. Mais ne pas dépenser trop d'argent quand on est débutant. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, les produits réflexe ou hybride entrée de gamme chez les constructeurs sont médiocres. Sont pas intéressants et vous allez être déçu, vous allez rester en mode automatique et vous aurez perdu de l'argent en fait. Est-ce qu'il existe une caméra pour faire des directs sur YouTube? Bah, tout un tas de caméras, tu peux faire un direct avec les webcams pour faire un direct, c'est très bien, hein. T'as pas besoin d'une caméra spécifique. Nous, on utilise effectivement une de nos caméras qui servent à filmer d'autres choses pour faire les lives, mais c'est un petit peu prétentieux de notre part. Au début du confinement, on l'a fait à la webcam, ça marchait très bien, hein. Voilà, il est 9h10, il va même 9h11, il va falloir que je vous quitte. Désolé de partir un peu en queue de poisson, on a été un peu long sur l'iPhone SE. On se retrouve lundi matin, donc sur la chaîne secondaire Nowtech Live pour le live de 8h. On se retrouve également à 14h aujourd'hui pour le live spécial confinement Nowtech Coffee. Et puis voilà, et si je vous revois pas à 14h, je vous souhaite un... Si j'y arrive, peut-être que j'irai faire un tour sur Twitch, mais je ne garantis rien, j'ai beaucoup beaucoup de travail en ce moment, j'irai faire un tour sur Twitch pour continuer sur le jeu, mais en tout cas je serai là à 14h pour le live. Je vous souhaite un excellent week-end à tous, et on se retrouve lundi à 8h. Ciao tout le monde, ciao ciao.